philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 juin 1992 à Saint-Jodeur.
Nous allons continuer cette petite recherche, point de vue de l'éthique religieuse. Comment l'éthique religieuse, par l'adoration, donc par ce sens de la transcendance du Dieu créateur et de la création de notre âme par Dieu, ce qui est le fondement de l'éthique religieuse, transforme la vertu de force. Et comprenez bien que les vertus cardinales par elles-mêmes ne sont pas religieuses, elles sont humaines. C'est pour ça qu'on les appelle cardinal. Cardo, le con. C'est ce qui fonde l'éthique humaine. C'est très curieux du reste. Pratiquement, on peut dire que dans notre philosophie européenne, et on pourrait dire dans la philosophie de l'Inde, chose commune à toutes ces philosophies, c'est les quatre vertus cardinales. C'est l'œcuménisme de l'éthique, ça. Et qui est brisé maintenant. Et ce qui est tout à fait nouveau. Les idéologies athées pratiquement brisent les vertus cardinales. Ce serait intéressant, hein, comme petite thèse, comme petit travail à faire. Pour quelqu'un qui s'intéresse. Parce que ça touche les gens. Et je suis persuadé que les idéologies athées et ce que nous allons voir, hélas, hein, des lois qui vont passer là-dessus, brisent complètement le point de vue éthique. Oui. C'est pas étonnant. Et là, on touche alors quelque chose de très très fondamental. La conception même de l'homme. Animal raisonnable, il n'y a plus que l'animal, un singe très parfait, inférieur à beaucoup d'autres animaux. Parce que c'est vrai, si vous supprimez l'esprit, l'homme n'est plus que très peu de choses, un phénomène de l'évolution, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui est propre à l'éthique? Proprement humaine et fondamentalement humaine, fondée sur l'amour d'amitié, c'est les quatre vertus cardinales. La prudence, la justice, la force, la tempérance. Et cela, c'est typiquement humain. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. L'animal n'est pas vertueux. J'ai jamais rencontré un animal vertueux. J'ai rencontré des animaux extrêmement virtuoses. La virtuosité peut être animale, mais pas l'art. Et quand on juge quelqu'un en fonction de sa virtuosité et non pas en fonction de l'art, c'est un niveau générique animal. Vous dire au jury, vous êtes au niveau animal, messieurs. Il y a des singes qui sont d'une virtuosité bien plus grande que l'homme. Il y a des aigles qui sont d'une virtuosité bien plus grande que l'homme. C'est vrai. Le jeu peut être une virtuosité pure. On ne demande pas au jeu d'être quelque chose d'artistique, d'être virtuose. Dans le football, la virtuosité et la force, et une force dans la souplesse. Avec ça, vous avez tout. C'est pas artistique, mais c'est la virtuosité. Faut bien faire la distinction entre les deux. La virtuosité n'est pas un habitus, c'est une disposition. un certain âge, le vieil aigle se cache et on ne voit pas mourir. Ça, c'est la noblesse de cet animal. Parce que voir quelqu'un mourir, c'est vrai, ça aussi, il est très curieux. Il faudrait traiter cette question-là. De la mort en éthique religieuse. La sépulture, c'est le signe de l'éthique religieuse. Et quand la sépulture n'existe plus, comme maintenant, on fait des piqûres pour que les gens vite, ou les bazardent le plus rapidement possible. C'est le signe que l'éthique religieuse disparaît complètement. Ça, en dernier lieu, on verra ça. Parce que ça, c'est le signe. La liturgie fondamentale, c'est celle de la mort. Ça, c'est sûr. Et c'est la sépulture. On le sait très bien. Et c'est que quand on assiste à des enterrements anciennement, le curé était très content parce qu'il avait là des quantités de personnes qui n'avaient jamais en dehors des enterrements. Et c'est pour ça qu'on considérait le prêtre comme l'homme lié à la mort. Je me souviens, c'était de Montena, on avait fait une course comme ça, je ne sais plus trop pourquoi, en montagne, à plusieurs, on était 3-4. Et comme j'étais en dominicain, tout le monde voyait que c'était un curé. Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit: ah, mais il y a un mort là-bas. C'est bon, quoi, quoi. Mais oui, mais il y a un mort. Il me voyait aller. Le curé lié à la mort, vous voyez. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu supprimer les enterrements pour ne plus être liés à la mort. Alors que c'est une dignité énorme. C'est l'homme religieux qui est lié à la mort. Je me souviens, c'était à Fribourg. Un ami qui était... Son épouse était protestante et lui était catholique. Et alors il m'a téléphoné en me disant: est-ce que vous ne pourriez pas venir prier? Mon épouse vient de mourir. Prier auprès d'elle. J'ai demandé au pasteur, il a dit: elle est morte. Alors j'ai dit oui, donc c'est pas la peine que je vienne. Est-ce que vous, en tant que prêtre catholique, vous venez prier auprès d'un mort? Je dis oui. Alors venez. Comme ça, ils comprendront que l'Église catholique respecte la mort jusqu'au bout. C'est très curieux, c'est très intéressant de voir ça, parce que ça montre jusqu'où va le point de vue religieux. Est-ce que la mort est inclue dans le point de vue religieux? Ou est-ce que la mort, après le corps, fiche, plus rien du tout, cadavre, fosse commune? Donc, voyons bien comment la vertu de religion, qui a quelque chose d'universel, la charité sera l'analogue de la vertu de religion en éthique chrétienne. Les deux vertus qui sont mères, la charité est mère des vertus, c'est pour ça qu'elle les informe, et la vertu de religion est mère des vertus et elle les informe. Et alors ce serait très beau du reste de voir le parallélisme entre les deux, parce qu'on toucherait là l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne en faisant ce parallélisme entre les deux. Faites ça si vous avez un peu de temps pendant les vacances, c'est un travail merveilleux à faire ça. Qu'est-ce que c'est que la vertu de religion? Qu'est-ce que c'est que la charité? Et voir la maternité de ces deux vertus. La vertu de religion va transformer l'exercice de la force. L'objet de la force demeure le même. La vertu de force est humaine, est typiquement humaine. La vertu de force, elle est enracinée dans l'irascible. En tant que l'irascible participe à la raison, à l'intelligence, à la prudence. La pure, si je regarde uniquement l'irascible en lui-même, l'irascible refuse la vertu. Hein. Les passions n'aiment pas les vertus. Ça, vous savez bien, psychologiquement, c'est l'irascible et le concupiscible qui dominent dans le point de vue du conditionnement. Mais on n'aime pas beaucoup les vertus. Quand vous êtes dans le concupiscible, vous n'aimez pas beaucoup. sens. Tout ce qu'il y a de commun entre l'animal et l'homme n'est pas typiquement humain. C'est l'aspect générique. C'est ce qu'on devrait rappeler aujourd'hui dans la bioéthique. Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas vraiment humain. Il faut dépasser la passion pour découvrir l'humain. L'humain est volontaire. Il n'est pas passionnel. Mais le volontaire se sert du passionnel. Il l'assume. Il lui donne un sens nouveau. Mais le passionnel, comme passionnel, n'est pas humain. Il y a des animaux qui nous dépassent au point de vue passion. Les animaux qui ont un irascible particulièrement développé, ne cherchez pas à les imiter, vous serez battu d'avance. L'irascible, c'est cette passion en face d'un bien difficile. C'est connu psychologiquement qu'il y a des gens qui aiment, dès qu'ils sont là, de faire que tout soit dramatique. Tout devient un drame. Une goutte d'eau dans un vase, ça fait un drame. Parce que cette goutte d'eau devait tomber à côté du vase, et elle est tombée dans le vase. Toute la journée échangée à cause de ça. Et il y a des personnes qui aiment de mettre le drame dès qu'elles sont là, pour pouvoir manifester leur force. La manifestation de la force. Les racines désirent dominer. Hein. C'est lié au pouvoir, les racines. C'est très curieux, ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix, l'harmonie. Ah, pour eux, c'est très ennuyeux dès que c'est paisible. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Tandis que quand c'est dans la lutte, alors là, on peut y aller. Hein. Les racines regardent le bien difficile à conquérir. Le bien difficile. Alors il y en a qui ne regardent que le difficile et qui oublient le bien. Et c'est la difficulté qui est importante, c'est la lutte. La vertu de force vient canaliser, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vient canaliser de l'intérieur l'irascible. La force pour lui donner une finalité humaine. C'est-à-dire, on se sert de cette force très étonnante qui est en nous. Cette puissance qui est en nous. Cette force de conquête pour quelque chose de plus grand que le bien difficile. Un bien spirituel, le bien de l'amitié. Alors l'irascible est au service de l'amour d'amitié. Au service de la conquête de l'ami. L'irascible, transformé par la vertu, va être en premier lieu le point de vue de la patience et en second lieu le point de vue de la conquête. C'est pas la conquête qui caractérise la vertu de force, la patience. Là, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Ça, c'est en éthique humaine, fondamentalement humaine. Et c'est très beau de voir ça. Vous voyez, l'attaque. Il y a des gens qui croient qu'ils sont forts parce qu'ils attaquent tout le temps. Ils sont très faibles, et pour se donner à eux-mêmes la conviction qu'ils sont forts, ils attaquent tout le temps. C'est comme les supérieurs qui veulent dominer. Et comme ils sont quelquefois des gens assez difficiles à dominer, ils se servent de ceux qui sont plus faibles pour les asservir et montrer par là qu'ils sont supérieurs. C'est facile à voir, ça. On voit très bien ça. Et c'est significatif qu'ils n'ont pas la vertu de force. La vertu de force, au contraire, elle est patiente. On n'est pas survolé. Tout de suite, immédiatement. Ah si c'est ça, je te renvoie. Je te mets à la porte, vous voyez, les pions sont comme ça, les pions. Dans tous les pensionnats, quand on voit les. Ce qu'on met comme ça, comme surveillants. C'est très rare qu'ils ont la vertu de force. Et on s'amuse à faire pousser les racines. Et de voir alors à ce moment-là, comme ça, quelque chose de particulier. On a tous dans la tête des souvenirs comme ça, particulièrement éloquents de ce que représentent les racines. C'est toujours comique de voir quelqu'un de digne se mettre en colère. Et l'irascible aboutit à la colère. La colère, quand elle est dominée, elle est grande. La colère non dominée, c'est l'animal. Alors, un homme sérieux qui redevient animal, publiquement, c'est ennuyeux. Et c'est quand on est jeune, c'est le spectacle le plus grandiose hein, de mettre des gens dignes en colère. C'est le point de vue, on connaît ça, c'est la tactique hein, de faire pousser. Eh bien, la vertu de force nous permet de dominer la colère par la patience. On se met tout de suite en colère. Pour rien. On doit de temps en temps se mettre en colère. C'est même nécessaire. Des colères saintes. Jésus s'est mis en colère. Des colères saintes. Des colères vertueuses. Mais la colère vertueuse provient de la patience. Je prends toujours cet exemple parce que là on peut le prendre. C'est religieux. Et on connaît ça. Jésus, pendant sa vie cachée, de 12 ans à 30 ans, allait régulièrement à Jérusalem, au temple. Il s'est tu. Dès qu'il a commencé sa vie apostolique, il s'est mis en colère parce qu'il y avait un désordre. Ce désordre n'était pas nouveau. Mais dans sa vie cachée, il s'est tu. Il était patient. Il a pris le fouet quand il a commencé sa vie publique. À 30 ans. Donc de 12 ans à 30 ans, Jésus a pâti. Il souffrait qu'il y avait un désordre religieux au temple. Que c'était plus la maison de Dieu. Que c'était l'agora. La maison du peuple. Il n'y avait plus la majesté de Dieu. La grandeur de Dieu n'était plus respectée. C'est ce que fait la vertu de religion. On met au service de la vertu de religion, cette force qui est en nous. Et je crois que la vertu de religion augmente en nous cette force de la patience. On souffre, on pâtit pour Dieu. Si autour de nous, on ne respecte pas le silence d'un lieu saint, si au milieu de nous, on ne respecte pas propre d'un lieu de prière, on pâtit, on arrive à se taire et on donne l'exemple que ce lieu est un lieu saint. Rappelez-vous le texte de Moïse, on enlève ses souliers parce que ce lieu est un lieu saint. Jamais quelqu'un n'entrera aujourd'hui hein, dans un lieu saint sans le manifester quand il s'agit de l'islam et quand il s'agit de nos églises. C'est curieux, hein, c'est curieux. C'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir là-dessus. Je constate hein, d'un côté la vertu de religion, de l'autre côté la charité. Oui. Et la charité, elle vous désarme. Et il faudrait un respect tout intérieur bien plus grand. Je ne vois pas comment tirer nos catégories. la messe le matin, et puis à partir de 9h, les parvis sont livrés aux gentils. On voit pas comment le curé pourrait dire ici à Notre-Dame, enlevez vos chaussures. Est-ce que ça ferait? Alors, d'un côté, la vertu de religion qui domine, de l'autre côté, la charité. Comme c'est difficile de maintenir le respect dans l'amour. Et la vertu de religion, elle, maintient le respect à l'égard de Dieu. C'est ça qu'elle fait. Et elle met la force au service de maintenir ce respect. Alors le petit signe, il est là. Enlevez vos chaussures, ce lieu est saint. Il y a une manière de se tenir, une manière d'être qui exprime la vertu de religion pour s'exprimer de cette manière-là. Et l'irascible est là qui domine au service de ce respect à l'égard de Dieu. Donc, la première emprise, j'allais dire, de la vertu de religion sur la vertu de force, c'est de faire que pour Dieu, on devient patient et on comprend que le plus grand respect qu'on manifeste à Dieu, c'est le silence. Le silence relève de la vertu de religion. Et on met la vertu de force au service de cela. D'abord par rapport à nous-mêmes. Il faut beaucoup de force pour se taire, vous savez bien. Première éducation religieuse, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de silence dans le monde. Et il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de force, surtout lorsque tout le monde autour de nous ne respecte plus. Alors, il y a la vertu de force au service de la vertu de religion, au service du respect de Dieu. Ce Dieu est saint. Alors je prends enlever ses chaussures, ne faites pas ça aujourd'hui, n'est-ce pas, pour manifester. Quand vous entrez à Notre-Dame, enlevez vos chaussures pour manifester. Non. On dirait qu'il est un peu malade, ça, aujourd'hui. Donc, ça change. Aujourd'hui, notre respect dans une cathédrale, quand on entre une cathédrale, c'est de se taire. Et de avoir une attitude de prière. Et on doit l'avoir, ça. Même si, de fait, autour de nous, il faut la force. L'autre aspect, alors encore beaucoup plus important, qui est l'autre extrême, la vertu de religion se sert de la force pour aller jusqu'au bout de la vertu de religion, de la vertu de force. C'est le martyr. Le martyr est une vertu typiquement religieuse. C'est de mépriser. Mépriser, vous voyez dans quel sens? Relativiser ce que représente notre vie temporelle, notre vie humaine. Relativiser notre vie humaine en considérant que notre vie humaine est peu de chose comparativement à l'obéissance, au respect, à l'amour, à l'égard de Dieu, du Dieu créateur. On ne veut proclamer que Dieu créateur est unique, qu'il est le seul vrai Dieu. Et si on doit faire des gestes à l'égard d'autres personnes, d'autres mythes, d'autres statues, des gestes qui seraient réservés à Dieu, comme l'adoration, brûler l'encens, on préfère mourir que de ne pas respecter situation limite. Préférez l'honneur de Dieu, le respect à l'égard de Dieu, respectez la majesté souveraine de Dieu, plutôt que de respecter notre propre vie humaine. Ça demande une très grande force intérieure, puisqu'on doit être capable de relativiser notre vie temporelle, tout ce que nous sommes dans notre vie temporelle, relativiser ça à l'égard du culte dû à l'unique Dieu, donc l'adoration, et la manifestation de cette adoration dans tous les gestes qui sont liés à l'adoration. Alors c'est là où il sera intéressant de voir tous les gestes qui sont immédiatement liés à l'adoration. Et là, ça dépend du milieu, de la culture. Et le geste d'offrir de l'encens en soi, ça peut très bien ne pas avoir de signification. Mais dans un certain contexte, c'est le geste qui reconnaît la majesté souveraine de Dieu. Et les martyrs ont accepté de disparaître d'une façon quelquefois violente, de mettre leur vie en péril, plutôt que de parjurer, plutôt que d'adorer des idoles. Là, la vertu de religion nous fait apparaître, nous manifeste comme une nouvelle vertu, ou plus exactement, un épanouissement ultime de la vertu de force, qui est le martyr. Vous voyez, la vertu de force fait que, en face d'un péril de mort, on n'a pas peur, on ne perd pas sa prudence. En face d'un péril imminent de mort, si on n'a pas la vertu de force, on a peur, on tourne le dos, on s'enfuit. En face du péril imminent de mort, on ne l'accepte pas, on ne peut pas le soutenir, on perd tous ses moyens. Et quand ça se fait d'une façon très astucieuse, on comprend très bien. Et quand, en plus de ça, il y a des tortures pour que on lâche certaines paroles ou on fasse certains gestes, ces tortures nous affaiblissent, diminuent notre capacité de résistance. Et au bout d'un certain temps, on cède. On connaît ça techniquement aujourd'hui parfaitement. Alors là, vous voyez, c'est vraiment la situation limite de la vertu de force. Un homme normal qui, en bonne santé, peut résister. Mais si petit à petit on l'use, et on peut le faire, puisque le fondement de la vertu de force est l'irascible, et donc c'est lié à notre sensibilité, c'est lié à notre corps, c'est lié à notre cœur. Vous n'avez plus la même force quand votre cœur commence à faiblir, qui commence à battre à toute vitesse. Alors votre vertu de force est entamée à ce moment-là, dans son exercice. La vertu de force demeure, mais l'exercice de la vertu de force n'arrive plus à dominer votre irascible, à dominer la peur qu'on a d'une menace imminente de mort. La vertu de force a besoin du concours de la vertu de religion pour pouvoir aller jusqu'au martyr, autrement faibli. C'est là qu'on comprend comment la vertu de religion peut transformer l'existence c'est le mystère de la croix du Christ. Et la croix du Christ a quelque chose de plus que la vertu de religion. C'est la charité. La charité à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Oui, un martyr comme le Père Kolb, qui est par rapport à la charité fraternelle. Ah, ça, c'est typiquement chrétien. Or, Jésus est mort pour manifester la grandeur du Père, la gloire du Père et notre salut. Le mystère de la croix s'achève dans cette charité fraternelle à notre égard, à l'égard de tous les hommes. Ça, c'est typiquement chrétien. Mais là, il y a une frontière qui est importante à saisir entre le martyr religieux et le martyr chrétien. Il ne faut pas confondre. Parce que ce sont toujours des choses qu'on vous fout entre les pattes. Il n'y a pas que des martyrs chez les chrétiens. Mais il faut dire, mais c'est sûr. La vertu de religion n'est pas annexe, n'est pas uniquement chrétienne. La vertu de religion, c'est par rapport au Dieu créateur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tout un aspect de la vertu de force qui serait très important à développer par rapport à la vertu de religion. Voyez tout de suite, c'est que la vertu de religion me fait comprendre que l'âme est créée par Dieu. Et c'est l'adoration qui me donne ce sens de la dépendance à l'égard de Dieu. C'est sûr que c'est la vertu de religion qui me donne ce sens de dépendance à l'égard de Dieu. C'est la vertu de religion qui me permet de comprendre le respect à l'égard de l'autre, d'aller beaucoup plus loin, puisque son âme est créée par Dieu. Cet aspect de la justice et de l'exercice de la justice transformé par la vertu de religion. Alors, vous voyez comment la vertu de force va intervenir aujourd'hui pour lutter contre la laïcisation généralisée et tout spécialement par rapport à l'avortement. On ne développe pas assez ça aujourd'hui, alors que je crois que c'est très important. L'avortement aujourd'hui est une solution de facilité la plupart du temps. Les gens ne veulent pas penser à ce qu'ils font. Ils veulent se débarrasser d'un fardeau, d'un service, à l'égard d'un petit être qui ne peut rien réclamer, dont ils sont responsables. Je crois que dans l'éducation, aujourd'hui, pour le mariage, et le faire au niveau de la vertu de religion, on le fait ensuite au niveau de l'éthique chrétienne. Mais l'éthique religieuse montre comment la vertu de force doit maintenir un respect à l'égard d'un être dépendant de Dieu dans sa petitesse. Et là, il faut beaucoup de force, quelquefois, pour le mari, pour la mère, en face de tout un contexte qui pousse à cette attitude éthique de libération, de facilité, et montrer qu'une éthique qui va vers cette libération, soi-disant des contraintes, libération des devoirs, libération à l'égard d'une responsabilité, conduit nécessairement à enlever dans la personne humaine le sens de sa dignité, le sens de sa grandeur. on est en phase de lâcheté. Et de lâcheté très radicale. Lâcheté telle qu'on accepte un meurtre pour se sauver. Soi-disant pour se sauver. Quand on accepte cela, on se diminue à ses propres yeux. On enlève à ses propres yeux la dignité de l'homme. Et donc, on est lâche. Et c'est très souvent la vertu de force qui, n'existant pas ou n'existant presque pas, fait qu'il n'y a pas la digue. On n'a pas la force de lutter jusqu'au bout. On n'a pas la force de dominer une situation difficile. Et alors, on se fait complice. Et on prend la solution de facilité. La solution de jouissance et de facilité, c'est le concupiscible qui l'emporte et qui fait que progressivement, l'homme perd sa dignité. Très vite, du reste. Très vite. Et je crains qu'aujourd'hui, vous voyez, non seulement je crains, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est cette solution de facilité qui commande toute l'éthique moderne, si on peut encore parler d'éthique. Ce n'est plus une éthique, c'est un jeu, c'est une virtuosité. Dans des situations difficiles, s'en tirer avec le moins de casse possible. Donc c'est la virtuosité. Ce n'est plus une attitude éthique. Dans quelle mesure la bioéthique n'a-t-elle pas pris cette solution du jeu de la virtuosité et qui n'est plus éthique, qui n'est plus éthique que dans le mot. C'est un mensonge collectif. Parce que quand on regarde les critères de la bioéthique, ce ne sont pas des critères éthiques. Donc c'est des critères d'adaptation à un milieu pour que ça passe sans que personne s'en aperçoive. Donc c'est la virtuosité. Alors je crois qu'on est en présence de cela. Alors il faut faire grande attention, hein. Il faut analyser chaque cas en particulier. Mais il faut l'analyser. Parce qu'on est responsable, chacun d'entre nous, de ce qui se passe. Et on n'a pas le droit d'être complice. On n'a pas le droit d'accepter ce qui est inacceptable. Alors je sais très bien que ce n'est pas commode. Que ce n'est pas commode de résister. Ce n'est pas commode de voir juste. Il ne faut pas être le petit. Bonhomme hein, qui crie tout le temps alors que ça ne sert à rien. Quelquefois on garde le silence et c'est plus digne et c'est plus éloquent. Mais il faut pouvoir montrer comment cette attitude-là est un manque de force. Et ça, ça touche toujours beaucoup plus les gens que parler du point de vue tempérance. Quand vous dites à quelqu'un, vous manquez de dignité et vous n'avez plus aucune force humaine, ça, ça les touche. Ça touche les hommes. Et ça touche les femmes aussi. Alors je crois qu'il y a là quelque chose qu'on doit regarder très près aujourd'hui. Cette alliance de la vertu de religion et de la force par rapport à l'imminence de la mort.